l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Ces derniers temps, de plus en plus de gens élèvent des poissons d'ornement. Ce n'est pas seulement pour admirer de jolis poissons de diverses couleurs, mais aussi pour réaliser des bénéfices. Ils les font se reproduire et vendent les petits de ces animaux. Le cycle de reproduction des poissons est plus court que celui des autres animaux de compagnie. De plus, ils pondent de nombreux œufs à la fois. Kim, un salarié de 28 ans, a 6 aquariums chez lui. Il y élève des ancestrues et des crevettes Bloody Mary. Les premiers pondent environ une fois par mois pour faire naître plus de 15 petits. Si on élève bien ces alevins, il est possible de vendre des poissons adultes à environ 15 euros par individu ou 50 euros par couple d'un mâle et d'une femelle. Quant aux dernières, elles se vendent généralement par lot de 10 individus pour un prix de 7 euros. Quand Kim a acheté ses poissons, il a payé 7 euros pour un ancestru et 4 euros pour une Blood Mary. Maintenant, leur nombre s'élève à quelques centaines d'individus. Il a commencé cet élevage comme passe-temps, mais c'est devenu une source de revenus qui lui rapporte chaque mois plusieurs centaines d'euros. Étant donné qu'il est difficile d'expédier des poissons vivants via un service de livraison à domicile, dans la plupart des cas, les transactions se font directement face à face entre le vendeur et l'acheteur. Certains sites de vente d'occasion interdisent la vente d'animaux de compagnie, y compris les poissons d'ornement. Pour cette raison, leurs transactions sont principalement effectuées sur des sites communautaires. Sur ces derniers, lorsqu'une proposition de vente de poissons d'espèces populaires est annoncée, un acheteur apparaît en moins d'une heure. Grâce à cette popularité croissante, le marché des poissons d'ornement s'est accru de 19% en 5 ans pour enregistrer l'an dernier un volume de 360 millions d'euros. Yu élève aussi ce type de poisson. Récemment, quand il a proposé sur un site communautaire la vente de quelques poissons, il a trouvé un acheteur à peine 2 minutes après son annonce. Yu a dit qu'il aimait bien élever des poissons chez lui parce qu'il pouvait ainsi gagner de l'argent en pratiquant des loisirs. Beaucoup pensent qu'il est facile de s'occuper des poissons. Mais ceux qui le font disent que cela n'est pas aussi facile qu'on imaginait, car il faut changer fréquemment l'eau des aquariums et ajuster la température de l'eau selon les saisons. Dans chaque université, il y a un journal universitaire publié par des étudiants. Jusqu'aux années 1990, ce type de publication était très apprécié par les étudiants. Mais aujourd'hui, elles ont peu de lecteurs et certaines d'entre elles sont même menacées de disparition. C'est d'une part parce que les étudiants s'intéressent de moins en moins aux questions d'actualité de leur établissement d'enseignement supérieur et d'autre part parce que la jeune génération, habituée à Internet, a tendance à ne pas lire les journaux papier. S'y ajoute la crise actuelle. Comme les cours continuent de se dérouler en ligne, les élèves ne se rendent pas à leur université. Du coup, les journaux universitaires s'accumulent sur leur stand en attendant des lecteurs. Les anciens et actuels rédacteurs en chef de ces publications disent à l'unanimité qu'après la propagation du COVID-19, la collecte d'informations et la publication des journaux sont devenues plus difficiles. Car autrefois, pour recueillir des renseignements, il était possible de visiter des établissements concernés et rencontrer des représentants. Mais maintenant, de nombreux organismes n'autorisent pas leurs visites. Par ailleurs, en raison du changement du calendrier des affaires scolaires des universités causé par l'épidémie, il y a beaucoup moins d'événements et de sujets à couvrir. Comble de malheur, conformément aux règles de distanciation sociale, il n'est pas facile pour les journalistes de se réunir pour publier leur journal. Parmi les causes du déclin de ces journaux, la plus importante est le manque de lecteurs. En plus du fait que les élèves ne viennent pas au campus, ils ne s'intéressent pas aux questions relatives à leur université ni à l'autonomie des étudiants. Or, ce sont les deux principaux sujets que les journaux universitaires sont destinés à traiter. Comme les élèves n'ont aucun intérêt pour ces sujets, ils ne lisent pas ces publications. Face à cette crise, celles-ci se dépêchent de préparer leur version en ligne. Elles se servent des réseaux sociaux pour attirer l'attention de leurs lecteurs. Certains établissements d'enseignement supérieur ne publient plus leur journal en version papier. On estime qu'après le passage à la version en ligne, il est devenu plus facile de rédiger des articles concernant les actualités. En outre, son accessibilité s'est améliorée, ce qui a augmenté l'intérêt des étudiants pour ces journaux. Les spécialistes jugent que cette transformation en version numérique est inévitable. Selon eux, beaucoup de jeunes qui s'intéressent peu aux médias hors ligne préfèrent l'apparition des journaux universitaires en ligne, car cela permet d'y accéder plus facilement en cliquant sur un lien sur Internet. À Pyeongchang, dans la province de Gangwon, se trouve le Jardin botanique de Corée. Il s'agit du premier et du plus grand jardin de plantes naturelles en Corée du Sud. Sur un terrain de 10 hectares, il abrite plus de 1300 plantes naturelles. C'est un établissement privé que son directeur Kim Chang-yeol a créé dans les années 1980. On estime qu'il existe environ 4500 plantes naturelles au pays du matin clair. Ce jardin en a collecté 1500 pour les étudier et les propager. Cet établissement est ainsi considéré comme une réserve des ressources génétiques de la végétation sur la péninsule coréenne. Mercredi dernier, ce jardin est devenu un établissement public, car Kim en a fait don à l'État. Ainsi, sa désignation a changé en Jardin botanique national de Corée. À propos de la raison de cette donation, Kim a expliqué que dès le début, il n'avait jamais pensé que ce jardin lui appartenait. À l'âge de plus de 70 ans, il a dit qu'il ne pourrait travailler que quelques années de plus. Mais selon lui, si son établissement appartient à l'État, il pourra perdurer. Pour cela, il a posé comme première condition de sa donation la conservation de cet établissement comme un jardin de plantes naturelles pendant les 100 ans à venir. Si Kim s'est mise à s'intéresser aux plantes naturelles du pays, c'est en raison de Somdari, une plante originaire de la Corée qui habite seulement dans le mont Seorak, dans la province de Gangwon. À cause des récoltes excessives de cette plante par des randonneurs de cette montagne, leur nombre a chuté. Il a pensé que s'il cultivait cette plante et la distribuait aux autres, cela pourrait empêcher sa récolte illicite, tout en satisfaisant ceux qui ont envie de la cultiver chez eux. Et il l'a mise en pratique tout de suite. Au début, il a commencé à cultiver des somdari à Namyangju, dans la province de Gyeonggi. Progressivement, son intérêt pour cette plante s'est élargi à d'autres végétaux naturels. Et il a fini par avoir l'idée de créer un jardin botanique pour faire connaître la beauté des fleurs et des arbres de cette terre. Alors, en 1989, il a trouvé un espace plus large pour ouvrir un jardin botanique dans la province de Gangwon. 10 ans plus tard, il a ouvert au public. Cet établissement, qui rassemblait des plantes naturelles rares ou menacées d'extinction, est immédiatement devenu un site très populaire. Kim espère que le gouvernement gérera bien ce jardin, qui est, selon lui, le dernier bastion des plantes précieuses qui doivent être conservées.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 14 juillet, vous êtes en compagnie de Ko Jung-san. Les Sud-Coréens sont de gros consommateurs de café. Chaque année, ils boivent plus de 350 tasses par habitant. À titre comparatif, la moyenne mondiale de la consommation de café est d'environ 130 tasses par an. Après avoir préparé cette boisson, il reste du marc de café. Plus de 99% des grains de café utilisés sont jetés. Ainsi, au pays du matin clair, la quantité de ces résidus s'élève à 15 tonnes par an. Or, il y a une start-up qui les réutilise pour fabriquer des produits écologiques comme des objets d'artisanat, de l'argile ou des briques. Le directeur général de cette entreprise est Im Byung-gol. C'est en 2008 qu'il a commencé à s'intéresser aux marcs de café. À l'époque, il était employé de bureau. Un jour, quand il est allé dans un café, il a aperçu du marc de café accumulé dans un coin. Il s'est demandé de quelle manière on pouvait en réutiliser. Il s'est alors mis à faire des recherches. Après plusieurs échecs, il a réussi à mettre au point des poudres et de l'argile à partir du marc de café. Par la suite, il a produit une soixantaine d'articles, comme des aromatisants, des pots qui, une fois enterrés, se transforment en engrais et des briques, entre autres. Jusqu'alors, ce travail n'était qu'un passe-temps pour lui. Or, en 2010, sa participation au Festival du café de Gangneung a marqué un tournant dans sa vie. Lors de cet événement, il a distribué aux visiteurs de l'argile à base de marc de café et cela a attiré beaucoup l'attention. 3 ans plus tard, il a finalement déposé sa démission à son entreprise pour lancer sa propre affaire. Et en 2019, il a bâti une usine de 1000 mètres carrés dans la province de Gyeonggi. Dans cette usine, des résidus d'infusion de café se transforment en nouveaux produits. On mélange des poudres de pierre et des poudres de marc de café et y ajoute quelques éléments supplémentaires, y compris de l'eau. Puis, on met cette mixture dans une machine spécialisée qui en fabrique des briques. Ces dernières, qui dégagent une odeur de café, servent de matériaux pour la décoration d'intérieur. En plus de son parfum de café, elles sont efficaces pour régler l'humidité. Ces briques sont exportées à l'étranger depuis 2018. Un autre avantage, normalement les briques brisées sont jetées comme des déchets de construction. Mais celles de lime se décomposent et disparaissent dans la terre. Il affirme que si on laisse le marc de café en tant que tel, il n'est qu'un résidu inutile. Mais si on l'exploite de manière efficace, il peut se transformer en outil qui enrichit notre vie. La société de livraison de plats Paymin a annoncé la mise en service de la livraison par robot. Elle a commencé cette prestation dans un grand complexe abritant des appartements et des boutiques à Séoul. Si un habitant commande des mets à travers l'application mobile de cette entreprise, un livreur les transporte jusqu'au rez-de-chaussée de ce complexe. Puis, il les charge sur le robot livreur nommé Tilly Tower et enregistre le numéro de sécurité du client. Alors, cette machine les livre à la porte de celui-ci. Selon Paymin, Tilly Tower est un robot de conduite autonome destiné à effectuer des livraisons à l'intérieur d'un bâtiment. Il se déplace en fonction du parcours enregistré au préalable et il peut prendre l'ascenseur tout seul. Plus précisément, par radiocommunication, il peut ouvrir l'entrée commune de l'immeuble, appeler l'ascenseur et enregistrer l'étage où il va descendre. Quand il arrive à la porte du client, il appelle et expédie un message sur son téléphone portable. Cette machine a 2 espaces de chargement de 23 litres et de 15 litres respectivement pour transporter au maximum 20 kg de charge. L'entreprise de livraison a expliqué que ce service permettait aux consommateurs de se faire livrer sans contact. Effectivement, les clients se montrent satisfaits de ce type de livraison. Pendant une semaine, le nombre de commandes dans ce complexe a dépassé 140. Pour les livreurs, c'est une méthode susceptible de diminuer le temps de livraison. En effet, d'après un essai effectué au siège de la firme, l'utilisation de ce robot réduit le temps de livraison de 5 minutes au minimum et de 16 minutes au maximum. Si cette entreprise a mis au point cette machine, c'était pour résorber la pénurie de livreurs qui s'est aggravée par l'augmentation de commandes de plats dans cette crise sanitaire. Paymin envisage d'élargir ce service à d'autres complexes d'habitation. Mais pour cela, il faut surmonter quelques obstacles. Tout d'abord, les ascenseurs qui disposent d'un système de radiocommunication sont inévitables pour le déplacement du livreur robot. Du coup, seuls les immeubles qui en sont équipés peuvent profiter de cette prestation. Aujourd'hui, pour faire des courses, il suffit d'ouvrir une application mobile de shopping. Après quelques touches sur l'écran de son smartphone, on peut recevoir les produits commandés le lendemain à l'aube. Désormais, ce type de service, proposé par quelques grandes plateformes, fait partie de notre quotidien. Cette tendance s'est répercutée sur les petits commerces de quartier, au point de menacer leur survie. Cependant, il y a de même de petits magasins qui réussissent à survivre dans cette situation difficile. Dans l'arrondissement de Yongsan à Séoul, il y a un magasin de poissons hors du commun. Si on y entre, on ne sent pas l'odeur typique de ce type de boutique. Les poissons sont étalés de manière propre et ordonnée. Ici se vendent aussi des paniers repas composés de vin, de sushi ou sashimi de qualité comparable à des restaurants spécialisés de ces mets. Le propriétaire de cet établissement l'a ouvert parce que, dans ce quartier, il n'est pas facile d'acheter divers poissons frais sans se rendre à un grand magasin ou un hypermarché. Chupostichi, situé dans l'arrondissement de Mapo, dans la capitale sud-coréenne, est un espace où les habitants du quartier peuvent passer fréquemment. Là-bas, ils prennent leur repas, travaillent en buvant un café ou rencontrent des voisins pour bavarder. Il est aussi possible de faire livrer des fruits biologiques à la maison. Selon le propriétaire de cet établissement, son objectif est de faire de ce magasin un salon du quartier. Pour les petits commerces de proximité, l'espace physique est essentiel, mais le service en ligne sans contact est aussi important. S'il combine ces deux éléments, cela peut produire un effet de synergie. C'est le cas de Super Kitchen. Dans les magasins de cette chaîne de plats d'accompagnement, il n'y a pas de cuisine. Les mets sont tous préparés dans une usine située à Pucheon, dans la province de Gyeonggi. Hormis les clients qui s'y rendent en personne pour acheter des aliments, il y a également de nombreuses commandes de livraison. Ce mélange des services en ligne et hors ligne est dû au fait qu'il y a toujours des consommateurs qui veulent voir des marchandises de leurs propres yeux avant d'en acheter pour en manger le jour même. Le directeur général de cette chaîne a estimé que les zones commerciales de quartier étaient un marché potentiel. Car les achats en ligne sont pratiques, mais la livraison prend au moins une demi-journée ou un jour. Par contre, les commerces de proximité permettent aux clients de faire leurs courses sur le chemin du retour à la maison après le travail pour préparer le dîner tout de suite. À vos marques. Dans 9 jours, le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'été de Tokyo sera donné. Depuis lundi, nous vous proposons chaque jour une rubrique qui y est consacrée. Thierry Laplanche est avec nous pour vous faire découvrir cet événement sportif mondial. Bonjour Thierry, aujourd'hui nous allons parler de deux disciplines. D'abord l'escrime, dans laquelle les athlètes sud-coréens ont réalisé des résultats impressionnants à chaque édition des Jeux Olympiques. Ensuite, le tir, dans lequel se lancera un tireur légendaire de l'équipe du pays du matin clair. Il semble que l'escrime se soit hissé parmi les disciplines prolifiques pour la Corée du Sud.
En effet, à partir des Jeux de Sydney en 2000, l'escrime s'est imposée comme une discipline phare du pays. Lors de cette manifestation sportive, le Sud-Coréen Lee Sang-gi a remporté le bronze en épée individuelle masculin. Il s'agissait de la première médaille olympique dans l'histoire de l'escrime sud-coréenne. Par la suite, en fleuret, Kim Yang-ho a décroché la première médaille d'or. C'est ainsi que la Corée du Sud a émergé comme l'un des pays forts dans ce sport dominé jusqu'alors par l'Europe.
Et en 2004 ?
À Athènes, les escrimeurs sud-coréens n'ont pu récolter aucune récompense. Mais 4 ans plus tard, à Pékin, Nam Hyun-hee a remporté l'argent en fleuret individuel féminin. Puis, lors des Jeux de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016, ils ont gagné plusieurs breloques de diverses couleurs, y compris l'or. Lors des JO de Londres, il y a eu une polémique autour d'un jugement erroné pour une épreuve disputée par l'escrimeuse Shin Aram. Quant aux Jeux de Rio, Park Sang-yang a accroché l'or à son cou en épée individuelle masculine, en remportant la victoire par un ultime renversement dans la finale, ce qui a beaucoup ému ses compatriotes.
Comme vous l'avez mentionné avant-hier, à Tokyo, le nombre de médailles en jeu en escrime est le plus élevé par rapport aux éditions précédentes.
Exactement. Depuis les Jeux d'Athènes où les épreuves individuelles et par équipe pour hommes et femmes ont eu lieu pour l'ensemble des 3 armes, certaines d'entre elles ont été exclues par rotation. Cette fois-ci, pour la première fois, se dérouleront les compétitions individuelles et par équipe pour les 3 armes avec 12 médailles d'or en jeu. C'est le nombre le plus élevé dans l'histoire des JO. À Tokyo, les escrimeurs et escrimeuses du pays du matin clair concourront dans les épreuves individuelles et par équipe pour le sabre et pour l'épée. Quant aux fleurets, ils ne se lanceront que dans les épreuves individuelles. L'équipe masculine avec Oh Sang-wook en tête vise la victoire dans les épreuves individuelles et par équipe en sabre. Par ailleurs, Woo Bong-gil et Kim Jong-hwan, qui font partie des meilleurs tireurs au monde. L'équipe sud-coréenne a fini première dans le classement mondial en compétition par équipe. De ce fait, il est possible que l'un d'entre eux devienne double médaillé d'or.
Autre point à remarquer ?
Kim Ji-yeon, qui a remporté l'or en sabre à Londres il y a 9 ans, concourra aussi à Tokyo. Pour cette vedette du sabre féminin, ce sera sa dernière participation aux Jeux Olympiques.
En escrime, un total de 12 médailles d'or seront décernées. Et combien pour le tir ?
Les tireurs se disputeront 15 titres olympiques au total. En 2016 à Rio, il y en avait 9 chez les hommes et 6 chez les femmes. Mais suite à des critiques sur cette différence entre les sexes, la Fédération internationale de tir sportif a supprimé 3 épreuves pour les hommes. Le pistolet 50 mètres, le carabine 50 mètres couché et le double trappe. À la place, elle a adopté des compétitions par équipe mixte. Par conséquent, à Tokyo, il y aura 6 épreuves chez les hommes, 6 chez les femmes et 3 par équipe mixte.
C'est une décision regrettable pour le sud-coréen Kim Jong-ho, triple médaillé d'or au pistolet 50 mètres.
Effectivement, ainsi, Kim Jong-ho visera la victoire dans l'épreuve du pistolet air comprimé 10 mètres, dont il était le champion olympique à Londres en 2012. Et dans l'épreuve du pistolet air comprimé 10 mètres par équipe mixte, une des nouvelles épreuves inscrites au programme. Si le tireur sud-coréen, qui a déjà récolté 6 médailles olympiques, réussit à en obtenir une de plus pour ses 5e Jeux olympiques, il deviendra le sud-coréen le plus titré en devançant Kim Soon-young, l'ancienne archère du tir à l'arc.
Il est étonnant qu'il puisse maintenir ses compétences pendant 17 ans depuis les Jeux d'Athènes en 2004. À part lui, à qui devrions-nous prêter attention ?
Les 15 tireurs de l'équipe nationale sud-coréenne qui s'est assurée autant de qualifications aux JO via des compétitions internationales ciblent des médailles d'or à Tokyo. En plus de Kim Jong-ho, beaucoup estiment que Kim Min-jung et Kim Bo-mi, en pistolet chez les femmes, ont aussi la possibilité de monter sur le podium.
Et en carabine ?
Eh bien, la tireuse la plus jeune de l'équipe nationale, Kwon Eun-ji, attire l'attention en tant qu'athlète qui pourra réaliser une grande performance. Car lors des matchs de sélection pour les JO, organisés en avril dernier, à la surprise générale, elle a établi 2 fois le nouveau record national, y compris un record du monde officieux. C'est pourquoi on compte beaucoup sur elle. Si Kwon réussit à décrocher une médaille pour l'équipe sud-coréenne, ce sera la première en carabine féminin, 21 ans après l'argent de Gang Cho-hyun, Sydney en 2000. Les compétitions de tir se dérouleront du 24 juillet au 2 août au stand de tir d'Asaka dans la capitale japonaise.
Attendons-nous à l'apparition d'une nouvelle vedette sportive.
Allez, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de cette rubrique olympique avant l'heure.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.